RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième émission avec Alain André pour évoquer vos couleurs, Alain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, initiateur des ateliers d'écriture Aleph en France. Et au cours de notre première émission, vous nous avez expliqué ce qu'est un atelier d'écriture et comment la couleur peut y jouer un rôle. Voyons maintenant, je vous propose la couleur de vos mots, Alain André. Une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par une pause musicale. Quelle musique voudriez-vous nous faire écouter ?
Alors, j'ai choisi une chanson de l'inusable Nina Simone, « Black is the color of my true love's hair ». Encore un peu de noir.
Très bien.
And the strongest hands. I love the ground unwasted. Black is the color of my
RCF. En entendant cette musique, Alain, je me demande si la musique est pour vous une source d'inspiration. Est-ce qu'une musique joyeuse, tonique ou au contraire mélancolique, voire dramatique, va vous inciter à colorer les mots dans telle ou telle harmonie? Et du reste, est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant?
Alors, je crains de vous décevoir un peu. Écrire demande une grande qualité d'écoute intérieure. Comme vous le savez, les écrivains complotent plutôt pour obtenir le silence. Si j'ajoute que j'ai une épouse qui déchiffre au piano, qui chante et suit un atelier de percussion, et même une fille de 9 ans qui joue de la flûte et des percussions, autant dire qu'il m'arrive, même si je les adore, d'attendre avec une impatience non dissimulée leur départ de la maison. Et réciproquement, bien sûr. Mais ça se négocie, hein, je vous rassure. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas partie des gens qui, comme François Bon le disait à une époque, écrivent dans leur garage avec du rock diffusé à fond la caisse par des baffles énormes, jusqu'à provoquer des états de conscience modifiés, analogues à ceux que produisent les tambours chamaniques. Je ne peux d'ailleurs vraiment écouter de la musique qu'à la condition qu'elle vienne après une longue plage de silence. Donc j'en écoute seul, par exemple dans ma voiture ou à mon bureau pour me placer dans un certain état favorable. Et alors, ce que j'écoute peut-être le plus, ce sont des voix de femmes qui chantent du tango ou du jazz, plus rarement du baroque.
Oui, mais quand vous écrivez ?
Alors quand j'écris quelque chose, il arrive que le projet entre en résonance avec un morceau, avec un compositeur, avec une phrase musicale que je peux écouter et réécouter pour qu'elle imprime en quelque sorte quelque chose de son rythme ou de sa respiration à l'écriture. Mais c'est assez rare, je ne le recherche pas comme une méthode, à la façon de Pascal Quignard, par exemple, qui raconte qu'une phrase musicale baroque avait accompagné pendant un an, chaque jour, l'écriture de l'un de ses romans, « Les solidarités mystérieuses », je crois. J'ai en revanche été confronté aux travaux sur la poésie sonore de l'Institut littéraire de Vienne. Ça me rappelle toujours ce petit passage de Michaud, vous savez, « la matière des sons, leur texture m'est offerte, m'est ouverte, leur texture jusqu'à la torture ». Alors on peut travailler comme ça, sur les sons de la ville ou de la jungle. On peut se souvenir du poème de Rimbaud, voyelles, A noir, E blanc, I rouge, etc. Tout le monde connaît ça. On peut aussi faire venir un chaman et utiliser les tambours pour susciter des états de conscience modifiés et de curieux rêves éveillés, comme le fait une intervenante d'Aleph à Bordeaux, Catherine Berthelard. Mais je crois que c'est pas de ce côté-là que je travaille spontanément. Même si j'ai adoré, par exemple, Lisbonne Story, le film de Wenders, dans lequel on voit un technicien son tendre sa perche et enregistrer tous les bruits de la ville et puis des fados.
Oui, je me souviens très bien de ce film, formidable. Est-ce que, Alain André, vous utilisez parfois la musique comme proposition d'écriture ? Parce que proposer une musique, ça peut être donner une couleur, une ambiance à un récit.
Je ne le fais pas très souvent. Et quand je l'ai fait, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une partie du groupe que ça gênait, tandis que ça en aidait une autre partie. J'ai parfois fait écrire des élèves, il y a très longtemps, à partir d'un morceau très figuratif de Keith Jarrett. Il y avait des bruits de savane, notamment. Les élèves aimaient beaucoup ça. Mais d'autres le font beaucoup plus que moi, comme Jean-Bernard Pouy, par exemple, qui faisait toujours écrire les élèves de l'EP à partir de la musique. J'ai utilisé des structures aussi, comme celle de la sonate, qui est à la base d'un roman de Carpentier, La chasse à l'homme. Mais ça, c'était dans un cycle consacré à l'écriture du roman. C'est encore tout à fait autre chose.
Et aujourd'hui, Alain André, qu'auriez-vous envie de faire à ce propos ?
Alors, sans doute travailler sur le rythme et faire travailler sur le rythme, comme le fait également Catherine Berthelard, que je viens de citer, une intervenante d'Aleph à Bordeaux. Par exemple, dans le dernier Laurent Mauvignier, Continuer, Sibylle, l'héroïne, emmène son fils Samuel au Kirghizistan pour une randonnée à cheval de plusieurs mois. Il s'agit de le sauver ou de sauver leur relation. Et au bout de quelques temps, le soir, chaque fois que c'est possible, si les chevaux ne sont pas trop fatigués, s'il n'y a pas trop d'obstacles, ils défont la selle, ils laissent tomber les sacs et ils font la course sur plusieurs centaines de mètres aller et retour, à fond de cale, à cru. Alors Mauvignier évoque ce rituel en presque deux pages qui font une seule phrase, où il s'agit seulement, si je puis dire, d'accorder le rythme de la phrase et le rythme du galop. Alors j'ai peut-être envie de ce genre de choses, parce que je ne suis pas musicien, mais que dans l'écriture aussi, la question du rythme est essentielle. Un écrivain comme Louis-René Desforêts a raconté tout ça beaucoup mieux que moi dans « Voies et détours de la fiction », par exemple.
Alors vous disiez, Alain André, avoir beaucoup travaillé à la vue dans votre premier roman, rien que du bleu, ou presque. Est-ce qu'il y a un rapport avec la couleur ?
Alors, grâce au « ou presque », le titre implique au moins deux couleurs, le bleu et le noir, pour être tout à fait clair. Mais, comment dire, pour l'éditeur, les quatre pages de couverture sont propriété privée. Il faut être déjà très reconnu en tant qu'auteur pour imposer son titre. Donc, ce manuscrit de premier roman a eu un titre de travail qui était retenu, au pluriel, au sens de la punition scolaire et aussi au sens de l'autocensure. Parce que pour aller au bout de ce roman, il a fallu que je me résigne à attaquer à la pioche la statue du père. Mais quand je l'ai envoyé fin 2000, trois maisons étaient partantes pour le publier, notamment Flammarion et De Noël, et le patron de De Noël, Olivier Rubinstein, qui était ravi du texte, n'aimait pas le titre que j'avais choisi. Il le trouvait trop âpre, comme certains passages du texte d'ailleurs. Les corps réfractaires, puisque c'était mon premier titre, ça ne passait pas, mais alors pas du tout.
C'est vrai que c'est un peu dur quand même, faut reconnaître.
Oui, mais le texte l'est aussi. En tout cas, Olivier Rubinstein m'a demandé de lui proposer une dizaine de titres possibles et il a choisi le titre qui lui plaisait et c'était Rien que du bleu ou presque, qui était tout simplement un bout de phrase tiré du roman. Et j'ai accepté parce que je sais bien quelles sont les relations entre le bleu, le non-savoir et l'angoisse. Il suffit de relire le bleu du ciel, ce merveilleux récit de Georges Bataille pour s'en souvenir.
Alors ce roman est visuel, évidemment, mais il est surtout, je trouve, très ressenti. Vous exprimez tout ce que vos sens vous donnent, les bruits, les odeurs. Le toucher est présent aussi, et j'y viens, les couleurs. Avant que vous nous disiez votre sentiment sur ce point, j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait pour que les auditeurs puissent faire leur propre idée.
C'est vrai que j'ai surtout travaillé sur le langage du corps, et donc vous avez raison sur le ressenti. Les passages plus visuels renvoient à la quête du narrateur, qui est accompagné de son fils, dans l'île de Ré, donc pas très loin d'ici. Alors ce sont des contrepoints au début, des moments presque de pause dans le récit. Le premier est celui-ci que je peux lire. Je regarde, rien ne se produit. Du marais sur la droite émergent quelques mottes d'herbe à l'abri desquelles avancent avec lenteur des échassiers blancs, une patte après l'autre, en silence. Rien. Au-delà, à ras de terre, les voiles de bateaux qui regagnent le port d'Ars. Puis s'affirme la suzeraineté du ciel, blanc, nappé de gris clair ou sombre, imprévisible. Heureusement, les habitudes reviennent. Réglage de la lumière sur la partie sombre du paysage, 2/3 de ciel au maximum, ça ira pour commencer. Je fais 2 ou 3 photos, flèche aiguë de l'église d'Ars, sans doute déclenchée trop vite. Je regarde encore le triangle noir qui servit d'amer à tous les navigateurs de la région. Mon cœur soudain bat plus vite, je tâtonne au bord de la fissure qui s'est ouverte hier en 2 tours de roue à peine.
Ah, je suis contente, on a des couleurs là, et quand on connaît l'île de Ré, on s'y retrouve, on y est. Est-ce que l'île de Ré vous inspire toujours, Alain André ?
En tout cas, plus maintenant, comme j'habite à La Rochelle, maintenant que je n'y suis plus, j'écris plutôt sur Paris, bien sûr.
Alors je vous propose de vous lire un autre passage de votre livre à propos du port de la Patache. Le port de la Patache. Pour rejoindre ce calme bout du monde, il suffit de pousser jusqu'à l'extrémité de l'île en suivant la mince bande de terre qui s'enroule autour du fier. Un chemin goudronné prolonge le parking des camping-cars. L'eau est là, tout de suite, clapotant derrière son bout de grève caillouteuse. C'est une présence étale qui aspire tout. Plus de 70 embarcations, canots motorisés, plates métalliques, bateaux de pêche aménagés pour la plaisance sont suspendus entre vase et ciel, dans l'illusion stable de l'eau qui les porte. Un voilier passe, des bruits de voix parviennent. « Passe derrière ! Mais non, on y va !» La surface de l'eau est semée de points rouges ou verts. Il y a des bouées. Sans doute aide-t-elle à la navigation, signalant les chenaux praticables, les zones de plus faible profondeur. À marée basse, posées sur la vase, elles attendent le moment de leur bi-élévation quotidienne. Qu'est-ce que je cherche à désensabler ? Est-ce que quand vous écrivez, Alain André, quand vous décrivez un lieu, vous écrivez sur place, sur le motif, comme on dit en peinture ?
Oui, tout à fait. À l'époque, j'habitais Paris. Je me suis donc offert une semaine dans l'île, c'est toujours un plaisir, et j'ai fait ce qu'on appelle des repérages. Sélectionner une dizaine de lieux très précis où je suis allé pour faire des photos et prendre des notes. Je dois avoir encore quelque part chez moi la carte d'état-major sur laquelle j'avais fait le travail de repérage et déjà pris des notes. Donc c'est un travail sur le motif, en effet. Mais ensuite, j'ai laissé de côté tout ce qui n'allait pas avec la couleur du passage, je veux dire avec son atmosphère. le travail d'atelier, dans l'après-coup, prime sur le travail sur le motif qui ne fournit qu'un matériau.
Alors, à nouveau, là, le parallèle avec la peinture, on peut le faire. On se promène, on prend les sensations, des croquis, et puis voilà, le travail se fait en atelier. Et ensuite ?
Alors, je peux donner un deuxième exemple dans un autre roman paru chez Thierry Magnier, qui est un photoroman intitulé « La passion d'Imax ». J'ai fait la même chose, mais les photos de repérage m'étaient offertes ou imposées par les photos à partir desquelles je devais écrire le roman. Le jeu, c'était de le faire sans savoir qui avait pris les photos, ni dans quelle partie du monde elles avaient été prises. J'ai découvert, mais plus tard, après l'acceptation du manuscrit, qu'il s'agissait de villes de Namibie, créées au moment de l'ouverture de mines de diamants, puis abandonnées et recouvertes par le sable, et photographiées par un des photographes du groupe Tendance Floue, Olivier Kuhlmann.
Et les couleurs sont là. Dans vos descriptions, on l'a vu dans nos deux lectures. Dans quelle mesure la couleur inspire votre écriture? Quelle place lui faites-vous?
Alors, une fois encore, c'est moins la couleur que les sens et les états corporels. Finalement, c'est moins cérébral qu'on ne le croit à l'écriture. C'est un travail physique qui passe par le corps. Donc la couleur, les odeurs, la mémoire de la peau, des papilles, sont, pendant le moment même de l'écriture, des points d'appui essentiels, qu'on écrive un poème ou une fiction. En vérité, si la couleur compte autant pour moi, je pense que c'est à travers le filtre de deux outils pour moi essentiels, qui sont la peinture d'abord, la photo ensuite. J'ai adoré, par exemple, le film de Mike Leigh, Mr. Turner. On y voit bien ce qu'est la passion de la couleur chez un peintre. Je suis un passionné de peinture. J'ai par exemple adoré l'an dernier la belle rétrospective consacrée par le Musée d'art moderne de Paris à l'œuvre de Paula Modersohn Becker, qui a inspiré à Marie Dariussecq la biographie de l'artiste intitulée « Être ici est une splendeur ».
C'est trop drôle parce qu'il est en ce moment sur ma table de chevet. Et j'aime beaucoup le titre, qui est une phrase de Rilke, « Être ici est une splendeur ».
J'en ai tiré à l'occasion un petit atelier au cours duquel je faisais passer des tirages de photographies faites à partir des reproductions imprimées dans le catalogue de l'expo, à partir des photographies originales des œuvres. Alors évidemment, ce qui est toujours un peu désolant quand on travaille comme ça, c'est que la perte est gigantesque. Perte dans les couleurs, la qualité du travail de coloriste de Paula Becker ne s'y retrouve plus. On perd aussi la matérialité de sa peinture, car quand on voit les vrais tableaux, les toiles de Paula Becker, on voit qu'elle pouvait peindre à couches très épaisses et, ou au contraire très minces. Même dans le catalogue, qui est très bien fait, on ne voit plus l'impressionnante épaisseur de la pâte colorée des toiles. Du coup, on perd un peu la vibration des choses, la brillance, la modulation, la luminosité intérieure de ces peintures.
Oui, enfin là, j'ai envie de dire que c'est le problème de la reproduction. Et puis finalement, heureusement, notre imagination est là. Et puis surtout, on n'aurait pas envie de se déranger sinon pour voir les originaux. J'ai vu que même dans le cadre d'un roman, comme Rien que du bleu, ou presque, vous découpez votre récit en texte assez court de 4-5 pages. Pourquoi cette préférence pour ce genre d'écriture, le fragment ?
L'enjeu du fragment, c'est bien de revenir au sensible. Si j'écris une thèse, par exemple, sur l'évolution de la ponctuation en France, personne ne va s'attendre à ce que je mette en scène ma relation personnelle profonde à la couleur ou aux signes typographiques. Mais si quelqu'un entreprend d'écrire son expérience professionnelle d'éducatrice de prison, par exemple, comme l'a fait une des participantes d'Aleph dans son premier texte publié, qui est intitulé « Fragmentation d'un lieu commun », c'est une autre affaire. La façon dont l'auteur, Jeanne Sautière, est présente à la prison et aux autres, y devient cruciale. C'est la même chose quand j'ai voulu évoquer la vie à l'internat dans un lycée de province au cours des années 60. J'avais besoin pour le faire de repasser par le corps et par les sensations. C'est une affaire de présence, d'immersion dans le réel. Et pour ça, je me méfie, mais la plupart des écrivains se méfient comme de la peste, de la tentation de s'embarquer dans un discours qui voudrait faire passer un message ou pire, une démonstration.
Alors justement, on va voir comment vous évoquez la vie dans cet internat que vous avez connu et comment elle passe par la sensation. Si vous voulez bien, on va lire le début de votre livre « Rien que du bleu ».
Dans la cour, je me souviens, les hauts murs couronnés de tuiles rouges, troués de loin en loin par des fenêtres à l'encadrement identique. Et sur ce quadrilatère clos, répété par les trois autres rectangles hiérarchisés de l'ensemble, le soleil d'automne, l'un des derniers à chauffer la peau, si bien qu'à la sortie du réfectoire, il ne reste plus qu'à aller à la queue leu-leu s'asseoir, avec sous les ongles l'aigre de l'écorce d'orange, pelée et mangée déjà le long du couloir.
On se laisse glisser, dos au mur, blouse ponçant la pierre jusqu'au goudron tiède. On s'agrège, dernière fois peut-être avant les pluies et le froid, à la lie des crinières en bataille et des chemises ouvertes sur la peau nue, au chapelet de souliers et de croquenous râpés qu'interrompent quelques paires de tennis ou de charentaises, pourtant prohibées en dehors des dortoirs et des cours de gymnastique. Et pendant quelques heures, quelques minutes, il n'y a plus que ce bien-être pesant que ponctuent les renvois, articulés parfois, du rôti de bœuf rougeâtre au couret des nerfs blancs, et les coups de gueule, les trafics, les cadeaux hasardés ou refusés, Fargier tentant une fois de plus de convaincre Prod. « Donne-moi un clope, je te dis, j'en aurai demain par la case. »
Il n'y a plus que les mégots balancés d'une pichenette, que le bruit métronomique des crachats expédiés à 2 mètres ou davantage, un peu plus loin si possible que ceux du voisin, bien qu'à proximité du même caillou qui semble un îlot blanchâtre, là-bas sur le goudron gris-bleu, que les paix, les souvenirs de ritournelles, caprices, c'est fini, les protestations vagues, toute la camaraderie des pesanteurs pénitentes, que les voix qui vont et viennent en ondes noirâtres. « Vous deviendrez des hommes, nom de Dieu !» disait le surgé. « Mais comment ?»
Oui, belle émotion, visuelle, on sent tout, on est avec ses enfants et on comprend vite. Vous revenez visiter, Alain André, les lieux de votre enfance et la machine à remonter le temps se met en marche. Difficile pour vous, mais propice à la création. C'est la métaphore du désensablage que vous décrivez dans ce livre, en page 40. Et puis vous écrivez à un autre endroit, que faites-vous de vos souvenirs lorsqu'ils vous tarabustent? Qu'en faites-vous, Alain André?
Oh, je me souviens, quand vous me posez cette question, de d'Annie Mignard, une auteure que nous avons invitée parfois à Aleph, qui disait avec conviction, mais en riant aussi, « La littérature, mais c'est la plainte de l'humanité !» Alors moi, je crois qu'au lieu de se plaindre, elle le pensait aussi, bien sûr, on peut travailler sur les expériences tarabustantes, les écrire, par exemple. Avec rien que du bleu ou presque, j'ai eu l'intention de faire un travail sur la mémoire. On vit une époque où on privilégie l'instantané, le zappable, tout le monde sait ça. Les choses qui comptent vraiment, en revanche, pour chacun de nous, viennent de bien plus loin. Il se trouve, par exemple, et c'est l'expérience qui m'a servi, que j'ai été placé à 11 ans dans un internat, celui du lycée impérial Guès de Balzac à Angoulême, qui était conçu pour former les jeunes hommes à la manière de la troupe napoléonienne à peu près. C'était un établissement où l'on vivait avant les droits de l'homme, je ne parle même pas de ceux de l'enfant. Violence, brimade, punition médiévale, bizutage, exploitation sexuelle aussi des plus jeunes et silence des adultes par là-dessus. J'ai fait mon service militaire à 25 ans dans un commando de chasseurs parachutistes. Côté lutte pour la survie, c'était de la rigolade à côté de mes premières années au lycée. Alors, je me suis rendu compte assez vite que faute d'écrire là-dessus, je n'écrirai de ma vie aucun roman. C'était un passage obligé, même s'il me fallait pour cela m'en prendre à mon père, qui avait été ravi de me coller en pension pour mon bien. J'ai donc commencé à écrire là-dessus en 83, je crois. J'ai repris et fini le roman en 99, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la forme fictionnelle qui permettait de représenter cette expérience pour le lecteur. Oh, évidemment, mon père s'est alité pendant 8 jours après avoir lu le roman, après sa parution, mais pour moi, la catharsis avait fonctionné. C'est le roman qui m'a permis ensuite de passer à autre chose, y compris en termes d'écriture.
Donc, vous êtes en train de nous dire que c'était une démarche longue et difficile, mais qui a fait son œuvre.
Oui, absolument.
Bien. Et est-ce que je peux vous demander donc si vous aurez d'autres ouvrages qui continueront la vie du jeune interne ?
Alors, j'en ai un qui n'est pas publié pour l'instant et qui est beaucoup sur les années post-68, oui. Mais comment dire, La difficulté, c'est de savoir si on doit écrire sur toutes les expériences noires de sa vie. Tout le monde en a rencontré. Je crois qu'en ce qui me concerne, j'aime beaucoup écrire aussi sur des expériences blanches ou roses. Et donc, je crois que j'ai écrit sur cette expérience-là très précisément parce qu'elle m'empêchait.
Peut-être elle empêchait les autres de venir, c'est ça?
Non, je crois pas. Je crois qu'elle m'empêchait d'écrire et que certaines expériences pas très drôles que j'ai pu vivre par ailleurs ne m'ont jamais empêché ni de vivre ni d'écrire comme celle-là.
Je pensais à l'écriture. Hein.
Bien sûr.
Quels sont les chantiers en ce moment qui viennent des chantiers blancs alors?
Alors, c'est très différent. Par exemple, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est un recueil de poèmes qui m'a été inspiré par la vision d'un film que beaucoup de gens ont aimé, c'est Patterson de Jim Jarmusch, et qui m'a conduit à relire certains auteurs de l'école de New York et à en découvrir d'autres. Je connaissais déjà Joe Brenner, j'ai lu Richard Brautigan, qui lui est un Californien, Frank O'Hara, Ron Padgett et d'autres, et ça a déclenché chez moi l'écriture de poèmes qui sont des poèmes du quotidien. J'en ai une centaine et je ne sais pas du tout où ça va m'emmener à l'heure où j'en parle.
Bien, j'espère que vous nous ferez le plaisir de nous en lire un. Écoutez, on arrive au terme de notre émission et vous avez à nouveau des choses à nous dire encore. Et on est impatients de les entendre, donc on se retrouvera pour une troisième émission pour parler toujours de vos couleurs et celles de la littérature en général. Alain André, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir, chers auditeurs, et d'ici là, prenez bien soin de vos couleurs.